bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, merci de nous rejoindre avec Leïla Kadoumoudati, Daniel Morin, Alexis Le Rossignol, Tom Villa, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités Élodie Fontan et Philippe Lachaud. Dans la joie et la bonne humeur totale. Ravi de vous accueillir en tout cas, soyez les bienvenus.
On est très content d'être là à chaque fois.
On a passé un très bon moment à voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est juste n'importe quoi, mais dans ma bouche, c'est un compliment. C'est, quand on dit c'est n'importe quoi, c'est un compliment. C'est vraiment quelque chose que l'on voit rarement au cinéma. Ça sort aujourd'hui, ce mercredi. On va en parler avec vous. D'abord, véritable question, vous avez vraiment grandi avec Nicky Larson et Élodie Fontan?
Ouais, moi je regardais vraiment quand j'étais petite. J'étais très fan. Ouais, très fan. Et j'adorais Nicky Larson. J'étais un peu amoureuse. Toutes les petites filles étaient un peu amoureuses de Nicky Larson.
Tous les garçons aussi.
Les petits garçons aussi, voilà, tout le monde.
Philippe aussi.
Non, parce que moi j'ai 65 ans, donc je n'ai pas connu cette.
C'est plus qu'il est aux enfants.
Il est bien retapé.
Moi j'ai grandi avec. Évidemment, je faisais.
Les premiers Mickey, vous c'était les premiers Mickey.
Oui, c'est ça.
Steamboat Willie.
Paprenel, c'était comment?
Ah, Nicolas
Paprenel.
Steamboat Willie.
Steamboat Willie, le premier Mickey.
Là, je fais partie évidemment de la génération Club Dorothée. C'est comme ça que j'ai connu Nicky Larson, tout l'arrivée des dessins animés japonais.
Et ça n'a pas été simple, apparemment. On va en parler de la manière dont vous avez pu obtenir les droits et de convaincre le papa de Nicky Larson, qui s'appelle bien sûr
Frank Larson.
Tsukasa. Bonjour.
Voilà, que vous êtes allé rencontrer au Japon pour le convaincre d'accepter que vous fassiez Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui sort aujourd'hui. Mais d'abord, des questions sur nos invités pour voir si vous avez un tout petit peu bossé ou pas. Pour un dîner parfait, Élodie Fontan choisirait Cyril Lignac pour faire la cuisine, tant qu'à faire, autant que ça soit bon à manger. Jarry pour rigoler, maintenant qu'on a vu le film, je sais pas si ça sera. Heureusement que c'est pas l'inverse. Et Philippe Lachaud, ici présent, pour faire quoi?
Danser?
Non.
Débarrasser.
Pour noter à la fin.
DJ.
Mettre la musique?
Pas loin. Ouais. Pas loin, Daniel.
Raccompagner les invités?
Non.
Striptease?
Non,
pour mettre la table,
calmer, oui.
Alors, pour dresser la table.
C'est contentant, Leïla.
Pour accueillir les invités. Qu'est-ce que t'as dit?
Cyril Lignac, les cuisines.
Débarrasser.
Cyril Lignac, les cuisines.
Faire la vaisselle.
Exactement.
La plonge.
C'est pas vrai.
C'est ce qu'elle a dit, oui.
Bah, je suis. Merci.
Ce serait pas pour faire à manger, quand même.
Oh, bah, merci.
Franchement,
ça commence bien.
Mais pas pour les invités.
Bah, ça vous fait une qualité, quand même.
Voilà.
C'est bien la vaisselle.
Bah oui,
bien.
Il est propre à la maison.
Il est propre.
Vous le sortez
au Labrador. Encore.
On parle d'un bébé, il fait ses nuits, il va sur le pot, il met plus de couches.
Il tâche pas trop, ça va.
Il met plus de couches.
Il l'aide aux tâches ménagères.
La vaisselle.
Élodie, il faut dire la vérité.
Non, mais la question, c'est pas s'il aide, c'est s'il partage. Parce que aider, c'est.
Apparemment pas. Vu la tête qu'elle fait.
C'est son procès.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est faire avec.
Non, quand on fait des dîners avec les copains et tout, ils débarrassent. Il débarrasse. Mais il sait pas du tout faire.
Il
sait pas du tout faire à manger.
Il débarrasse ses copains, mais
il sait faire une omelette et c'est le maximum, quoi.
Des pâtes quand même. Tu sais pas faire des pâtes.
C'est si simple une omelette pour pas que ça colle dans la poêle et tout.
Et des pâtes, on peut rater les pâtes aussi. Tu sais faire des pâtes.
Les pâtes. Alors j'ai une petite anecdote. Première fois de ma vie que j'ai fait des pâtes. J'ai pas mis d'eau.
Ouais, je sais, ouais, je comprends.
T'as pas mis d'eau?
Ouais, voilà, pour vous dire le niveau quand même. Ah
ouais. Bah, quand on les aime croquantes.
Al dente, quoi, ça.
Non, mais quand on jamais vu.
On part de très très loin.
Ouais, là, c'est Al dente qui tombe. Hein.
Maintenant, je sais.
Jusqu'où les parents de Philippe Lachaud ont été pour satisfaire l'envie de Philippe de faire du cinéma?
Ah, bah, c'était chez les parents qui tournaient tous ces sketchs et tout au début?
Non.
C'est lunaire.
C'est en France ou pas?
Ouais, c'est en France.
Ils lui ont offert une caméra.
Jusqu'où sont allés exactement? Ils ont offert une caméra. Carrément, c'est joli ça comme cadeau.
C'est même plus joli, ils n'avaient pas les sous pour m'acheter une caméra, donc ils ont emprunté les sous à des amis qui m'ont offert une caméra du coup quand j'étais très jeune, et là c'était parti.
C'est quoi très jeune?
Je filmais tout. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans.
Ouais, et la caméra était une caméra vidéo, une caméra.
Ouais, c'est ça. Et là je me suis pas arrêté. Mon frère était mon premier acteur, il avait pas le choix.
Mon petit frère.
Je le déguise en fille, je le déguise en soldat, et je lui dis, tu vas faire le soldat Ryan, tu vas faire le machin et tout.
C'est un grand ou un petit frère?
C'est un petit frère, évidemment,
ah oui,
il avait pas le choix.
Pas faire.
C'est ça, un grand frère, j'aurais pas pu.
Pour le tournage de Babysitting 2, Élodie Fontan a sauté dans une cascade où elle n'a su uniquement après qu'il y avait un problème.
Des petites bêtes, des plantes dangereuses.
Non, il y a des poissons, des piranhas, des requins.
Exactement. Piranha et crocodile, c'est ça?
Plus bas, on a dit qu'il y avait des crocodiles plus bas dans le.
Ils nous l'ont dit après.
Ils nous l'ont dit après.
Ah, mais je croyais que Philippe savait.
Ah non, ah, non. Personne savait. Mais encore moins, il aurait pas.
On présente une belle image de moi dans cette émission.
Non, vu votre air nerveux, vous étiez au courant.
Oh oui, ça va.
Non, j'avais pas peur, moi.
Non, parce que j'y serais pas allé non plus, surtout. Parce que je plongeais, moi aussi, dans l'eau.
Mais c'est une légende ou pas, le côté piranha carnivore qui bouffe des êtres vivants?
On l'a pas su, ils nous ont pas touché.
Non, ça, mais piranha, j'ai pas souvenir. Crocodile, on nous a dit, vraiment. On nous a dit, si on remonte un tout petit peu le fleuve, il y a des crocodiles. On a dit, mais vous auriez pu nous le dire avant, quand même.
Non, mais ils viennent jamais ici, c'est ça.
Oui,
c'est vrai que l'eau était quand même très inquiétez trop, pas. On savait pas du tout ce qu'il y avait dedans.
Qu'a fait Philippe Lachaud la première fois qu'il a monté les marches du Festival de Cannes?
Il est tombé.
Enfin, donc, du palais.
Tombé.
Ça serait
il
bien.
A fait une omelette.
Il a fait la vaisselle.
Avec ses propres œufs, non.
Il alors, a été nu, non. Il y montait
tu peux
en...
pas monter les pieds au Festival de Cannes nu, tu peux pas.
En moonwalk?
Non. Ah ouais, classe. Peut-être pour la prochaine fois, moi. Ouais.
Il avait pas de nos papillons?
Non. C'était pas qu'il... droit.
Il a ah monté oui, les marches avec sa mère, son père, non. Avec ses,
avec
sa famille.
Il a filmé?
Non.
Il a dit quelque chose?
Non. Dans, peut-être dans la tête, ouais.
Sur la rampe?
Non.
Sur quelqu'un?
Il a marché très lentement pour savourer son moment.
Ça a quelque chose à voir avec le rouge.
Alors, c'est pas loin, à mon avis. C'est pas loin avec la vitesse, ouais.
Et il a retardé quelqu'un, au ralenti. Du coup, une star qui devait arriver.
Ouais, mais pourquoi? Non.
Bah, parce que pour savourer, pour être pris en photo, pour.
Non.
Ah, parce qu'il y avait des cannes, enfin ouais. Des.
Tu montes les marches du Festival de Cannes lentement et il se passe un truc dans ta tête en même temps.
Tu te demandes.
T'as envie de partir.
Je crois, ça tu peut avoir un rapport avec le faire durer le plus longtemps possible, ouais.
Ouais, tu essaies de réaliser le moment.
Mais donc, c'est un escalier, qu'est-ce que tu fais?
Tu le cires.
Ah, tu le montes et tu le redescends et tu le.
Non.
Tu fais tes lacets.
Une marche, tu t'arrêtes.
Je sais pas ce que tu fais. Tu es assis sur les marches?
Non. Qu'est-ce que tu fais, Philippe?
Alors, je cherche un peu.
J'espère que c'est bien parce que c'est long. Hein, ouais,
c'est... Et ça sent la déception.
Ah, si, je crois ça va.
Déclaration en Paris Match, là, il y a quelques temps. Ah, oui. Il n'y a pas longtemps.
Qu'est-ce qu'on fait dans un escalier?
Il s'est arrêté, il a regardé tout le monde. Et...
Personne n'a trouvé. Bah, non. Vous avez compté les marches.
Ah oui, c'est ça.
Oh, c'est super.
Tout le monde est déçu.
Non, mais la vraie question, c'est quel intérêt?
J'étais tellement content, j'étais là, du coup, je profitais. Je disais une marche, deux marches, trois marches. Je me filme en faisant ça. Mais on n'a plus le droit aux selfies, par contre. Ouais. Si j'avais mon téléphone à l'époque, je crois on n'a plus le droit.
Ouais, ça, parce que ça faisait des embouteillages, c'était pénible.
Mais est-ce que c'est un tic parce que...
Ah non,
c'est pour ça que vous êtes en retard.
On est au sixième, donc c'est pour ça que ça met du temps. Non, mais il y a ceux qui comptent les marches, il y a ceux qui ne veulent pas avoir un nombre impair lorsqu'ils marchent, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des tocs comme ça.
Première fois, depuis tout enfant, je veux faire du cinéma. Là, je montais les marches du Festival de Cannes. Du coup, j'en profitais.
Et il y en a combien, 29?
Oh, je sais plus. Mais en plus, le plus drôle, c'est que j'ai même pas vu le film. C'est-à-dire que je suis arrivé en haut.
Vous lentement.
Et après, je suis parti pour faire la, je crois que c'était une émission. Du coup, j'ai monté les marches et je suis parti.
Donc c'est vraiment pour les photos, être en smoking.
C'était un rêve de petit garçon.
Le rituel, ouais.
Et après, on ne voit pas le film.
Et ben là, j'ai pas vu le film, moi. Tristesse. Et Paris, c'était bien.
justement, à propos de cinéma, Élodie Fontan déteste voir un genre de cinéma. Lequel?
Horreur.
Horreur,
ouais. Ouais, exactement.
Ouais, c'est ouais, la trouillarde.
Oh, tu peux parler, le téméraire.
Oh là.
Mais
ça balance.
C'est fou, ça.
À partir de quel degré vous appelez ça un film d'horreur? Parce que il y a genre Scary Movie.
Ça fait peur, quoi.
Oui, oui.
Le dernier que j'ai vu, c'était The Grudge. Je pense que j'ai dû voir la moitié du film au cinéma. Tellement je me suis caché les yeux, tout le reste du film.
En plus, vous allez au cinéma.
Pourquoi vous y allez si vous aimez
Non, mais à ce film-là, je me suis arrêtée. Hein. J'ai dit plus jamais, c'est bon, c'est fini. Donc j'ai réussi à regarder quand même, par exemple, la série Walking Dead. Mais j'ai dû prendre sur moi. Hein. J'y suis allée par étapes. Hein. Compliqué.
Non, mais pourquoi le faire si vous n'aimez pas?
Parce qu'on m'a dit qu'elle était bien, cette série.
Elle est bien pour ceux qui aiment ça.
Mais je me suis dit, bon, c'était pas film d'horreur, c'est juste qu'il y avait effectivement des scènes un peu.
Ouais, les morts vivants, mais ouais, c'est pareil, ça, c'est pas,
le clip de Michael Jackson, Thriller, ça allait, quoi. Jusque-là, ça va. D'accord. Comment Philippe Lachaud rend-il hommage à ses voisins dans ses films?
Donne leur nom à des personnages.
Exactement.
Bravo.
Vous avez un voisin qui s'appelle Nicky Larson?
C'est ça. C'était mon père. Oui, non, mais effectivement, mais même dans tous mes films, tous mes copains, mes voisins, en fait, tous les noms des personnages, effectivement, c'est le nom de... Bah, dans Baby Sting, nos voisins s'appellent Monsieur et Madame Monet, c'est mes voisins depuis que je suis tout petit.
Est-ce que vous réglez aussi des comptes comme ça au cinéma? C'est-à-dire vous donnez le nom d'un voisin que vous n'aimez pas ou de quelqu'un que vous n'aimez pas à un gros salaud dans le film qui va être ridicule?
Non.
Dites
non,
la vérité.
Ils se mangent sur les looks des copains surtout. Ouais, c'est comme ça qu'ils.
Ouais. Oui, mais ça c'est des vannes. À des copains, ça reste des vannes. Mais quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous le mettez quand même dans le film dans un sale rôle.
Non, non, j'assumerai pas. J'assumerai pas parce que si je le recroise.
Parce que Claude Chabrol me dit, JB, Claude Chabrol faisait ça avec des critiques cinéma qu'il avait cassé.
C'est drôle.
Il donnait des noms de salauds dans ses films.
Ah, bah tiens.
Ah, c'est pas con. D'accord, bah, je vais faire ça. Tu vas y avoir Nagui au prochain. Ben, Nagui, ouais. Le prochain. Qui es-tu? Je m'appelle Nagui.
Ça sera moins discret, à mon avis.
Je te jure, ça n'a rien à voir avec toi.
Il faut vraiment que ce soit un gros salaud. Hein.
Et pas de bol en plus, parce que j'ai aimé Nicky Larson. Donc, va falloir attendre un tout petit peu. C'est vrai que si vous n'aviez pas fait votre carrière dans le cinéma, Philippe, vous vouliez être dessinateur de manga?
Oui, j'adorais ça, j'étais passionné par ça. Bah, avec l'arrivée encore d'une fois du Club Dorothée.
Vous en avez le don?
Oui, j'ai un petit don pour le dessin, c'est vrai.
Tu feras un petit dessin sur la table et le place.
Voilà, façon manga, voilà, j'adorais ça. Donc c'était soit le dessin, soit le cinéma.
C'était vos dessins dans Babysitting 1?
Non, c'était pas mes dessins. C'était pas mes dessins parce que j'avais pas le temps du tout. Mais effectivement. Mais je crois que. Alors, le mec qui se compare à James Cameron. James Cameron dessine aussi un don pour le dessin. Les dessins qu'on voit dans Titanic, parce que Leonardo DiCaprio dessine, c'est les dessins que James Cameron a fait, lui.
Voilà. J'ai comme anecdote.
Voilà,
une sorte, anecdote. Une sorte de caméo. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une manière d'apparaître indirectement
avec sa patte. C'est le vrai dessin de James Cameron.
Parlons donc de Nicky Larson. D'abord, avant de rentrer dans l'histoire elle-même, le parcours du combattant, votre parcours du combattant, pour obtenir les droits. Vous avez eu l'idée d'adapter ce manga à quel moment par rapport à tous les babysitting, des alibis et épouse-moi.
C'était à l'époque de Babysitting 2. En fait, j'étais chez mes parents. Ma mère m'avait gardé tous les Dorothée magazines. Ils éditaient des Dorothée magazines avec les dessins animés sous forme de BD dedans. Et je tombe sur Nicky Larson et je me dis, ce serait quand même extraordinaire de faire un jour un film sur un des héros de mon enfance. Parce que Nicky Larson, c'est un personnage très marrant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de James Bond en comédie. Et au début, ça
légèrement obsédé.
Obsédé sexuel.
Oui, il aime James beaucoup Bond, les femmes.
Pas.
Voilà, c'est pas James Bond.
Non, mais c'est un mélange de texte.
Il aime beaucoup les femmes, mais il est obsédé sexuel.
En fait, ça dit qu'il voit une jolie femme, il a 5 ans d'âge mental.
Voilà, donc c'est un mélange entre Le Loup de Tex Avery et James Bond.
Ouais, très belle
image. Avec un peu d'Emile Louis. Dans l'approche.
Et au début, ça paraissait complètement inaccessible parce que c'était un dessin animé japonais et voilà, et c'est très dur d'acquérir les droits au Japon. Et voilà, et avec le temps, on a réussi. C'est grâce à Sony, Columbia.
Alors,
attendez, avec le temps,
ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous mettez quand même à écrire sans avoir le droit de le faire en disant je vais quand même essayer de l'écrire, de le proposer et on verra si j'ai les droits.
En fait, on arrive à avoir un contact avec Tsukasa Ojo qui nous dit. Sur l'idée, pourquoi pas, mais voilà, il y a un droit de regard. Donc, si le scénario ne me plaît pas, il n'y aura pas de film.
Donc là, vous mettez à bosser d'une manière extrêmement scolaire.
On a tellement envie de faire le film qu'on se lance quand même. On écrit pendant un an et demi.
Mais vous faites quoi? Est-ce que vous visionnez tous les personnes existantes?
Ouais, on se refait. Moi, je m'en rappelais, mais je me suis dit, il faut se remettre à jour vraiment. Donc, on a acheté 144 épisodes.
Ouais, et puis son souvenir avec sa mémoire d'ado et le revoir adulte, il y a sûrement des choses que vous n'aviez pas ou perçues ou captées. Ou,
bah, c'est surtout que tu dis, ça restait un dessin animé un peu pour enfants. Donc, c'est déjà, t'es plein de nostalgie en revoyant les dessins animés, c'est sûr. Mais voilà, tu dis, bon.
Donc, vous en visionnez combien?
Bah, tous. On a vu 144 épisodes. D'accord. Et il y avait 37 tomes, parce qu'en fait, il y avait soit la BD, enfin, on appelle ça un manga, soit les épisodes
papier,
de dessins animés.
Papier et vidéo, vous travaillez les.
Ouais,
tout,
on s'y met
tout
à fond. Bah oui, parce qu'il y a un enjeu incroyable. On se dit, si on veut pas travailler pour rien.
Là, l'histoire que vous écrivez est tirée de l'un des épisodes ou est totalement inventée en gardant l'esprit.
En fait, faire une heure et demie sur un épisode, sur des dessins animés de 20 minutes, c'était pas possible. Donc, on a fait une histoire originale. C'est nous qui avons inventé l'histoire de la quête
du
parfum de Cupidon. C'est un parfum qui rendrait irrésistible toute personne qui l'utilise. Donc, il y a un thème de la. C'est une comédie avec le thème de l'amour, on va dire.
L'élixir, ouais.
Voilà. Okay. Donc ça, c'est une histoire originale, mais après, on a repris tout l'ADN de Nicky Larson, les personnages, les enjeux,
leurs
relations, voilà.
La massue,
le running gag. Il y a, voilà, Laura, donc la partenaire de Nicky, quand elle n'est pas contente après lui, elle a tendance à lui mettre des petits coups de marteau. Voilà.
Bon. Petit, oui.
Donc voilà, il y a des choses plus ou moins faciles à ramener dans le film, mais on s'est débrouillé pour que tous les gens qui connaissent et ceux qui connaissent pas, que tout le monde soit.
Alors ça c'est réussi, parce que moi je ne connais, je suis absolument pas génération Nicky Larson, beaucoup trop vieux pour ça, j'ai jamais vu aucun Nicky Larson. Donc j'ai j'avais entendu évidemment la marque, le nom, mais j'ai découvert avec vous. Donc moi je suis absolument pas, c'est en discutant dans le bureau que tout le monde, mais si évidemment il y a le code, il a fait ça.
Nicky Larson.
Voilà, même Daniel, malgré ses apparences, a connu aussi Nicky Larson.
C'était ça le défi pour nous, c'était surtout pas d'exclure ceux qui
ça
avaient aimé Baby Sting, Alibi.com, qui connaissaient pas du tout Nicky Larson. On voulait vraiment que voilà, ça puisse parler à tout le monde.
C'est pour ça que je me suis permis de parler de Tex Avery, parce que moi j'ai vu aussi des codes de dessins animés du loup et de Tex Avery, et de Bibi le Coyote et tout ça.
Et ce qui est beau, c'est non seulement c'est hyper fidèle dans l'esprit à Nicky Larson, parce qu'on se dit, mince, voir Nicky Larson en film, ça fait un peu peur au départ, quand on a tellement aimé le dessin animé qu'on a grandi avec ça. Et je trouve que vous réussissez parfaitement, vous faites une vraie comédie, mais vous vous retenez pas en plus sur vraiment l'humour, le gag. Et puis un clin d'œil fabuleux, c'est de retrouver Dorothée.
Au guichet.
Pour toute notre génération, c'est ça. C'est ceux qui font, ceux qui font partie de la génération Club Dorothée iront des clins d'œil supplémentaires, dont l'apparition de Dorothée qui était un peu notre nom de toute notre génération.
J'ai lu qu'il y avait le comédien qui faisait la voix aussi.
Oui, tout à fait. Le Vincent Ropion, qu'on salue.
Celui qui chantait le générique.
Et Jean-Paul Césari qui chantait le générique du dessin animé. Voilà, il y a toutes ces personnes-là font des petites apparitions dans le film. Donc nous, on est très fiers. Ça nous touche beaucoup.
Il y a plein de petits clins d'œil au Club Dorothée avec Salut les musclés.
Il y en a beaucoup.
Et alors, la réalisation, l'écriture, la manière dont vous avez bossé, ça a pris combien de temps, Élodie, tout le travail, aussi bien dans la tête de Philippe Lachaud que sur le tournage?
Alors moi j'ai écrit pendant
je disais dans la tête de Philippe et dans sur le tournage.
Combien de temps ça a pris à partir du moment de l'écriture à plus de 3 ans, non?
Ouais, c'est ça à peu près.
3 ans, ouais. Il y a eu 1 an et demi d'écriture avant la proposition à Tsukasa et après.
Vous retrouvez dans étant la partenaire de Nicky Larson dans le rôle de la jalouse amoureuse.
Bah ouais, enfin Laura c'est un personnage. C'était un très beau personnage, j'ai adoré le jouer. Et c'est quelqu'un de très carré et sérieux sur certains trucs, qui accompagne Nicky, effectivement, mais qui ne supporte pas de voir son côté, effectivement, enfant de 5 ans dès qu'il y a une nana qui passe. Ça la rend hystérique. Donc elle a un côté sanguin.
Jalouse.
Très développé.
C'est-à-dire qu'elle est.
Mais même au-delà de la jalousie. Je pense qu'elle est au-delà de la jalousie, ça la gasse, quoi. Ça la rend dingue.
C'est la jalousie au départ.
C'est l'amoureuse dans le même.
Non, c'est pas que de la jalousie.
C'est pas que la jalousie, c'est que vraiment, il a toujours la même attitude et que c'est lassant, quoi. Et
vu qu'il a aucun.
Et il y a des moments où il est pas. Elle supporte pas son comportement qu'il a envers les femmes et du coup elle le remet en place toutes les 5 secondes, mais comme une mère avec son enfant, quoi. Pareil, même attitude.
Elle est plus mature que lui.
Il y a pas de mal du coup là.
Comme une mère qui punirait son enfant à coup de masse quand même.
Ça dépend des régions.
Elle rigole pas, Laura.
L'histoire est donc cette histoire d'élixir où il y a c'est Didier Bourdon et je ne divulgue gâche rien puisque c'est dans la bande annonce qui dit mais puisque vous êtes le meilleur détective possible, on a 47 heures pour retrouver cet élixir qui a été volé. C'est ça. La manière dont l'enquête se passe, il n'y a pas une seconde. Enfin, déjà la première scène avec Jarry qui a accepté d'être nu, qui a accepté. Je sais même pas comment il a pu accepter. C'est-à-dire qu'il a lu. Est-ce qu'il a lu le rôle d'abord avant d'accepter?
J'adore Jarry. Franchement, il me fait rire et ça faisait un moment qu'on voulait travailler ensemble. Et là, je me disais mais qu'est-ce que je peux lui proposer? Et il y avait ce rôle de patient, effectivement, qui est très douillet.
Vous l'aimez me chercher un rôle où il n'a pas une phrase.
En fait, c'est ça. En fait, il est dans un hôpital et il va pour se faire opérer. Il dit mais moi je suis très douillet. Vous êtes sûr que je vais pas avoir mal? Non, vous inquiétez pas. Donc là, il l'endort, mais il se retrouve nu du coup sur la table d'opération. Et il y a une bagarre qui éclate entre Nicky et Mahmoud, son rival. Et lui se retrouve au milieu de tout ça. Donc forcément, il se prend des coups un peu partout et notamment un peu sur son service 3 pièces. Et donc je l'appelle tout content. Je lui dis bon, Jarry, je crois que j'ai un petit truc à te proposer et tout. Donc lui, il est tout
un
content. Il dit
petit truc. Ouais.
Et c'est génial et tout. Ouais. C'est bon. Il y a juste un petit détail. C'est quoi? En fait, t'es complètement à Walp. Et là, il y a un blanc au téléphone. je sens la déception. Et il me dit, écoute, t'envoies, et puis on verra. Et puis bon, je lui ai envoyé, et ça l'a fait marrer. Et il l'a fait, et je le remercie, parce que Non, je pensais pas qu'il le fait, que c'est aussi
extrêmement
drôle,
ouais. Drôle. C'est extrêmement drôle. C'est pratiquement la scène d'ouverture. Enfin, c'était.
Oui, c'est on ouvre.
C'est vraiment celle qui marque les esprits.
Qui donne le ton, ouais.
Oui, et on comprend un, la réalisation, deux, le clivage qu'il peut y avoir entre Nicky Larson et ses ennemis, puisque c'est une espèce de flashback. Après, on verra pourquoi on en arrive à cette scène. Et puis, on voit que c'est nos limites dans la réalisation, dans la manière où tout est possible. Donc, c'est extrêmement drôle. Le casting est riche aussi, hein, parce que autour de vous, il y a évidemment Tarek Boudali, célèbre chanteur, mais également comédien.
Tu sais qu'on lui parle tout le temps de ça. On a fait une grande tournée d'avant-première pour Nicky Larson dans toute la France, et tout le monde lui parle à chaque fois de n'oubliez pas les paroles. On dit mais vous chantez vraiment mal comme ça.
Julien Arruti, Didier Bourdon, Pamela Anderson, ouais. Gérard Jugnot, Kamel Genfoud, Audrey Lamy, Chantal Latsou, Jarry, donc dont on a parlé, Raphaël personnage aussi. C'est incroyable, oui. qu'on a du mal à reconnaître dans un premier temps, et après on se dit mais oui, mais c'est lui.
Comme quoi tout tient à une coupe de cheveux, quoi.
Rim Kérissi, Mehdi Sadoun, Dorothée, on l'a dit, en fait il y a des potes incontournables aussi. Il y a ceux, même si leur emploi du temps ne permet pas de tourner plusieurs jours, vous dites il faut quand même que vous soyez là, ouais. je pense à Rim, il faut qu'elle soit là, quoi.
Rim, Gérard Jugnot, enfin voilà, il y a des gens qu'on aime fort, voilà, faut qu'ils fassent partie de l'aventure.
Les permanents de la bande à Fifi,
ouais,
ils sont
c'est
là.
Ça. Mm.
Ouais, mais c'est bien la fidélité aussi, puis ça permet d'avoir le sentiment de faire partie de la famille, c'est-à-dire qu'on retrouve nos codes, enfin c'est un vrai moment agréable. Vous, Daniel, tu l'as vu, le film ?
Oui, j'ai vu, mais j'ai adoré, j'y allais à reculons. Je me suis dit Nicky Larson en film, et puis je me suis laissé attraper. Non, mais j'ai trouvé que, enfin, le pari était plus que réussi, c'était formidable. Et il y a des gags potaches que vous osez, et ça va quand même chatouiller, ça fait ricaner, et ça marche tout du long du film.
Bah merci.
Ah non, mais j'ai plus que ricané, quoi. J'ai explosé.
Non, mais il y a un moment, c'est au début du film, il y a ce gag où le fameux mammouth qui vient d'être mentionné est mis dans les vapes, donc il est allongé sur un brancard, et il y a cette blague qui est complètement potache, où vous changez simplement la mission de l'opération, et c'est marqué épilation définitive du sillon interfécier. Et voilà, c'est potache, ça fait ricaner.
C'est très très drôle. Et moi j'aimerais bien qu'on parle aussi, peut-être après, de la réalisation, parce que comme c'est un film de genre, j'ai été impressionnée par les scènes où il y a des affrontements, où il y a des coups de feu. La façon dont c'est réalisé, c'est vraiment très très proche de ce qu'on a vu dans le dessin animé quand on était gosse, où on voit les balles vraiment s'approcher, fusées. Il y a une vraie chorégraphie, et je trouve qu'il y a un boulot.
Tous les ralentis qui rappellent vraiment le dessin animé.
Ouais, il y a un boulot assez fou de réalisation sur ce film-là.
Et d'effets vidéo aussi, ouais.
Ouais, il y a de la comédie évidemment, mais il y a aussi une part d'action, et on voulait surtout pas que ce soit raté. Non. Et je me suis très bien entouré. Je les salue. Il y a une petite équipe de petits jeunes qui s'appellent
les cascadeurs.
Assistant, ouais. C'est des petits jeunes que mon frère a découvert sur Internet, et je les ai vus. Et je leur ai dit écoutez les gars, moi j'ai jamais réussi de réaliser de scènes de baston. Donc je vous confie la mise en scène des scènes de baston. Je leur ai expliqué, j'avais des idées très précises quand même dans ma tête. Mais voilà, la fusion entre nous et parce que je suis très fier vraiment des scènes d'action, parce que évidemment on voit les films américains qui ont des budgets pas possibles, et je voulais pas qu'on fasse quand même trop cheap ou que ça fasse
c'est pas le cas.
Pitié non. Et voilà,
c'est pas le cas.
On a fait ce qu'on a pu avec nos moyens.
Puis vous êtes gaulé comme un dieu.
Ça sort.
Mais c'est sympa ça.
Ça sort.
Voilà,
ça sort.
Ça commence
mal. Ça fait partie des effets spéciaux. On va en parler.
C'est le plus cher du film, voilà.
Et puis elle est un peu féministe quand même. Votre personnage défend aussi un peu la cause des femmes, et elle est très...
Bien sûr, non, c'est pour ça qu'on disait qu'elle n'était pas que jalouse, effectivement, c'était un peu... Oui, elle est là pour le remettre en place, notre Nicky Larson, quand même, qui a tendance à prendre beaucoup de place.
Ça sort aujourd'hui, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et c'est un carton annoncé, Tom Villa.
Ouais, parce que ça va faire marrer tout le monde, et puis les nostalgiques des années 80-90, ça va leur rappeler plein de souvenirs. Nicky Larson, c'était diffusé, donc on l'a dit, dans le Club Dorothée. Club Dorothée, quand même, c'était la seule émission pour enfants avec le nom d'une boîte échangiste de Limoges, donc c'est beau, quelque part.
Des références.
Non, mais j'ai grandi...
à Limoges
oui, non. Avec tout le Club comment. Dorothée. Ma culture a été faite par le Club Dorothée, donc déjà, ceci explique cela. Mais franchement, avec le recul, elle était un peu bizarre, cette émission, parce que bon, il y avait Dorothée, ok. Il y avait la petite Brune, c'était Ariane, ok. Après, les mecs, il y avait qui ? Il y avait Patrick Simpson-Jones. Vous vous rappelez, Nagui, de Patrick Simpson-Jones ?
Bien sûr.
Il avait une reste sur le côté, il avait 40 ans depuis 40 ans.
C'est un jour. Il était journaliste avant de faire partie de la.
Avant de déconner. Ouais. Et Jackie, qui avant Dorothée, il était attaché de presse,
Platine,
le Gainsbourg,
Bachung.
Ouais. C'est fou. Vrai. Et son seul tube connu, c'est TTO et Clio. Qu'est-ce qui a merdé ? Je sais pas. Et Corbier. Corbier, quand même, bon, il avait plus la tête à être dans Perdu de vue que dans le Club Dorothée. Et encore, je suis gentil parce que Faites entrer l'accusé n'existait pas. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Le groupe de musique, il s'appelait comment ? Les Musclés. Bon, les mecs, ils étaient taillés comme des cotons-tiges et ils s'appelaient les musclés. Alors, j'entends déjà les mauvaises langues. Ouais, oh, c'est pour rire, c'est parce qu'ils sont pas musclés qu'ils s'appelaient les musclés. Bah, sur ce principe-là, ils auraient pu s'appeler les musiciens, c'était pareil. Non, mais leur tube. La fête au village. Ah, la merguez party. On apprenait à des enfants de 8 ans comment réaliser un barbecue, faire une soirée arrosée. Et tu m'étonnes qu'on ait une génération d'alcooliques. Hein, et puis le club Dorothée, c'était surtout les dessins animés. Bon, bien sûr, Nicky Larson. Puis, est-ce qu'on pourrait faire un petit point quand même sur les dessins animés qu'on nous a montrés à cette époque-là? Parce que c'était la base de notre future vie d'adulte. Le ciment de notre éducation. Candy, une orpheline pendant la Première Guerre mondiale. Déjà, bonne ambiance. Tom Sawyer, orphelin, vagabond qui fait l'école buissonnière. Bon exemple. Ken le survivant. On est sur une terre qui sort d'une guerre nucléaire où il n'y a plus un seul océan, il n'y a plus un seul arbre et il défend des paysans qui sont dépouillés par des malfrats. Ok, Olive et Tom. Ouais. Le dessin animé sur le foot où le terrain il mesure 25 km de long et les ballons se transforment en ogives nucléaires. T'as le gardien qui fait des triples axels vrillés pour arrêter le ballon et tout le monde trouve ça normal. Après, tu grandis, tu tombes sur Reims Marseille. C'est sûr, ça fait bizarre. Sailor Moon, une gamine de 14 ans qui est en charge de protéger le système solaire avec ses copines et deux chats qui parlent. Je le rappelle, la drogue, c'est pas bien. Princesse Sarah, sa mère est morte d'une fièvre en Inde. Elle est placée en pension par son père qui meurt lui aussi le jour de ses 9 ans. Du coup, elle devient boniche. Super. Cat Size. Les nanas déguisées en chats avec des tenues ultra moulantes qui lançaient des cartes de visite. Moi, ça me rappelle mes vacances en Thaïlande. Mais c'est bien, ça donne des bons repères quand t'es jeune. Donc en fait, Nicky Larson, c'était vraiment le seul mec un peu normal à côté. Bon, un flic obsédé sexuel, il y avait rien de choquant. Attends. Non mais nous on a grandi avec ça, mais t'imagines la génération qui arrive là, eux ils ont grandi avec Bob l'éponge. C'est une éponge qui a une cravate et qui est pote avec une étoile de mer en maillot de bain. Et aujourd'hui c'est Peppa Pig, une famille de cochons, et ça cartonne alors qu'il y a 3 religions sur 4 que ça fait pas marrer. Allez, bon courage pour l'avenir. Bonne émission.
Merci Damien.
La bande originale, Nabi sur France Inter. Oh, oh.
J'oublie quelque chose, il y a mes poupées, ma télé, ma jolie veste dorée.
C'est une voix.
Dorothée, vous l'avez rencontrée pour le film. Est-ce que vous aviez les yeux qui piquaient de voir votre idole de jeunesse?
C'était, je pensais pas être touché à ce point-là, pour dire la vérité. Et il n'y a pas que moi, toute l'équipe technique, on était à peu près tous de la même génération. Il y a beaucoup de guests, comme vous aviez dit, dans le film. Il y a Pamela Anderson, Didier Bourdon, Gérard Jugnot et plein d'autres. Et
la d'ailleurs, seule personne avec qui... Didier a pratiquement la même poitrine que Pamela Anderson. Hein, en pleine forme.
Et la seule personne avec qui toute l'équipe a fait une photo, c'était avec Dorothée.
Non, mais je peux comprendre, parce que souvent, ceux qui ont grandi avec le culte comme ça d'une star fondent en larmes en la rencontrant, parce que d'un coup, il y a tout un truc de nostalgie enfoui qui sort.
Ouais. C'est très particulier.
Moi, j'ai eu ça quand j'ai rencontré Nagui la première fois.
Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais.
Moi aussi, j'ai cru que c'était Dorothée.
Vous aviez la même poitrine.
Même visage.
Voici Alexis Leroy, aussi.
Bonjour à tous.
Salut.
Et à chacun. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous parler de la galanterie. Ouais, super. Waouh. On voit l'engouement là.
Je passe.
Non, parce que j'ai remarqué un truc récemment, c'est que quand les hommes sont galants, ils aiment bien le souligner. Oui. Par exemple, ils disent, allez-y madame, la galanterie.
Mais oui.
C'est bizarre parce que quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis pas bonjour, la politesse. Oui. Quand tu conduis, tu dis pas, allez avance du con, l'irrespect. Non, et je vous raconte ça parce que je l'ai entendu hier à la boulangerie et dans ma tête, je me suis dit, la galanterie, on devrait même plus entendre ça. Sauf que juste après cette réflexion personnelle, je me suis dit, c'est quoi le problème avec la galanterie déjà? Et ça m'a troublé en fait, c'est comme si un moi un peu perplexe était sorti de son trou pour me dire, ben vas-y, argumente. C'est rare ce genre d'auto-mise à l'épreuve, en fait, généralement, quand tu dis une connerie du genre « Tu sais que plus tu mets de pastis dans ton eau, moins t'as mal au crâne le lendemain », personne ne se réveille à l'intérieur de toi pour te demander d'argumenter. Au contraire, dans ces moments-là, ton cerveau, il comprend que t'as besoin d'aide, il est solidaire, il dit « Bon, il commence à dire des conneries, on va faire réchauffer une cuisse de poulet, ça lui ferait du bien de manger un morceau, tu vois ?» Bref, je crois que... J'étais pas sûr de celle-là.
Non, elle est bien, vas-y.
Je crois que justement, il devait y avoir une petite voix intérieure qui aurait dû dire
ouais,
relis.
Ouais.
T'aurais dû t'écouter.
Laissez-moi finir, ça va être long sinon.
Ouais, vas-y.
Je crois que je me suis dit, la galanterie, on devrait plus entendre ça parce que je me souvenais qu'une femme avait critiqué la galanterie une fois sur un plateau télé et que je me t'ai dit, c'est vachement bien ce qu'elle dit là. Je vais retenir. Sauf que vous savez comment ça se passe, les courses, les enfants, les poils dans le bac de douche. On retient pas tout, en fait, ce qu'on voudrait. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais bosser un peu le sujet et je vais en parler sur France Inter. Ça peut intéresser des gens. Parce que spontanément, on se dit la galanterie, c'est cool, c'est le respect des femmes, tout ça. Mais en fait, il y a un petit côté pervers derrière. Fin de l'introduction. Ah, merde, j'étais pas censé le lire, ça. Alors là, vous allez me dire, mais la galanterie, c'est quoi au juste?
Et très bonne question, messieurs dames. Okay. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la galanterie est apparue vers le XIIe siècle. Et au début, c'était un ensemble d'attentions que les femmes portaient, que les hommes portaient aux femmes, pardon, pour les protéger. Parce que socialement, le rôle des femmes, c'est de garantir les naissances. Et plus un village était peuplé, plus ils pouvaient se défendre. Alors à l'époque, la pensée dominante, c'était les femmes sont fragiles et dépendantes, elles ont besoin des hommes pour ouvrir les portes, tout ça, tout ça. Mais faut dire qu'au XIIe siècle, les portes, c'était du bois massif. Genre du chêne, quoi, bien lourd. Alors mais forcément, maintenant, c'est de l'aglo ou du sapin. Tu vois, les femmes, elles ont plus besoin des hommes pour les ouvrir. Et c'est cette histoire de portes en bois massif et de portes en aggloméré que j'avais oublié en regardant l'émission, en fait. Après, la porte, c'est un exemple. C'est... La galanterie, c'est pas que ça. Et je dis pas non plus qu'il faut pas tenir la porte. C'est juste que, d'après ce que j'ai compris, faut la tenir à la fois aux hommes et aux femmes. Juste par courtoisie ou par précaution. Parce que ça fait mal de prendre une porte en pleine tête, qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Mmh. Et même si c'est de l'aglo. Après, la galanterie a évolué. Autour du 12e, 17e siècle, la galanterie, c'est devenu une espèce de code de drague entre les hommes et les femmes.
Il fait peur, ce mec.
C'est... Parce qu'à cette époque... Non, mais écoutez, ça, je fais mon prof d'histoire, je suis content, là.
Ouais, vas-y.
Je vis un truc... Parce qu'à cette époque, c'était aux hommes de faire le premier pas. Mm. Et au début, la femme répondait systématiquement non. Elle disait, je suis pas intéressée. Même si dans sa tête, elle se disait, Gontran, il est quand même beau gosse. Elle disait non, pour préserver sa vertu. Donc l'homme, il faisait quoi? Eh ben, il insistait pour obtenir un oui. Il faisait des cadeaux, des promesses, tout ça, jusqu'à ce que la femme soit convaincue qu'il était sincère et qu'elle dise oui. Et ça, c'est le deuxième point que j'avais pas retenu. C'est que si la femme disait non, ben, Gontran, il insistait quand même en se disant, elle finira bien par dire oui. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que la galanterie est remise en question aujourd'hui. C'est comme la chasse. À l'époque de la préhistoire, personne ne se demandait si c'était bien ou mal de tuer des animaux dans la forêt. Les gens étaient chasseurs-cueilleurs, donc le menu c'était soit brochette de bison, soit fraise des bois. Personne ne disait « Oh là là, faut vraiment qu'on mange moins de viande ». Bon, voilà ce que je voulais dire au sujet de la galanterie. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, souvenez-vous que je m'appelle Guillermo Guiz. Et tapez galanterie plus problème sur internet, vous trouverez plein d'articles intéressants sur le sujet. Allez, salut.
Merci Alexis Lerossier.
La bande originale. Et Alexis est toujours en cours magistral au point virgule.
Tout à fait. À 17h30.
Alors justement, pour la musique, il fallait aussi être dans l'esprit des années 80. J'adore Elodie.
J'adore.
C'est vrai.
Elle est dans le film. C'est dans le film aussi. Elle est aussi.
Grand moment d'acting là.
Elle est dans le film.
Ouais. Avec moins d'assurance.
C'est Lara Fabian toujours.
Ah oui, oui.
Au tout début, elle écoute Mozart.
Oui, c'est ça. C'était Mozart.
Ça va, sinon.
Oui, c'est ça. Oui, oui, elle aime bien Mozart dans le film, et du coup, il y a Mozart dans le film.
Logique.
Ok, parlons de votre physique qui a troublé Daniel Morin, ouais, au point où il a des posters maintenant à la maison et il les colorie tous les soirs.
Je comprends.
Pour vous caresser les muscles.
Je fais pareil.
Vous avez... ça, il y a la couleur de cheveux quand même.
Vous avez pris... Oui, vous êtes... Mais il fallait être brun pour... Noir même, carrément, noir corbeau.
Oui, mais il n'y a pas eu de perruque.
Non, malheureusement.
Il a regretté. Hein.
C'est-à-dire, je me suis peint les cheveux. Je me suis vu le lendemain, j'ai fait, mais qu'est-ce
que j'ai fait? Ça durcit un peu votre visage.
Mais ça me mochit même.
Non.
C'est, moi, je m'aimais pas du tout.
Quand il est sorti, quand il est venu le premier jour.
De moi,
non, mais tous.
Il m'a tous dit Krivers.
Le premier jour, c'était une vanne. Hein.
Non,
c'était une vanne.
Mais moi, j'étais là, je baissais la tête.
Mais dit Krivers, c'est un compliment.
Ouais,
il avait fait noir avec les sourcils noirs, comme ça, c'était, c'était très étrange.
Après, bon, on s'y fait. De toute façon, il n'y a pas le choix. Le personnage est brun. Donc, il n'y a pas le choix. Et effectivement,
il dit, pardon, quand on est amoureuse. Qu'il soit blond, qu'il soit brun, qu'il soit roux.
C'est que l'amour a des limites.
Enfin, elle avait pas signé pour Dick Rivers à la base.
Donc, vous avez mis une perruque, Elodie.
Ah bah oui, ah bah oui. Moi, je lui ai conseillé depuis le début. Hein.
Tu as mis la perruque, 92.
Tu vas le regretter. T'as non, je m'implique. Je me colore les cheveux. Après, putain, derrière. Putain, merde, j'aurais dû mettre une perruque, c'est vrai, c'est dégueulasse. Maintenant, je vais pas m'en sortir.
La petite larme qui
et
coule.
Et après, la coiffeuse qui lui a dit non, mais parce qu'en plus, du coup, tu pourras pas les reteindre derrière. Il va falloir attendre que ça repousse.
Ouais.
Voilà, bah, on voit le résultat en transition.
Non, mais là, ça va, on est en fin de cycle. Là.
Mais il y a... enfin. Ouais, c'est que les pointes aller. Qui sont
au stade intermédiaire.
Cet été, vous serez top.
Il
vous
a un merci. Vous,
avec le soleil, ça va s'éclaircir.
Je voudrais qu'on reparle de votre corps.
Parlons du physique.
J'insiste sur ce point.
Vous avez bossé. On va appeler un chat un chat. On le voyait déjà dans d'autres films. Physiquement, vous n'avez pas de gros soucis de graisse ou d'être. Vous êtes globalement quelqu'un qui fait rêver déjà Daniel Morin au naturel. Pourquoi il fallait devenir Hulk? Parce que là, vous êtes allé très loin quand même.
Non, parce que le personnage Nicky Larson dans le dessin animé est très costaud.
Ouais, baraque.
Et je voulais lui ressembler quand même un minimum. Moi, je suis plutôt de nature fine, donc il fallait que je prenne en masse musculaire. Mais ce qui se fait souvent sur.
Il fallait être crédible dans les bastons, parce que quand même.
Voilà, et je voulais être crédible, parce que normalement c'est le meilleur.
Non, enfin, t'es pas obligé d'être nu quand tu te bats aussi, quoi. Tu
peux... Si, chez moi, oui.
D'accord.
Donc j'ai pris 8 kilos de muscles pour le film. Ouais.
Et alors, pouvez-vous expliquer à Daniel Morin comment on fait pour prendre 8 kilos de
muscles? Déjà 100 grammes. Je pense que c'est surtout Nagui qui est intéressé, mais il fait passer ça par Daniel.
Ça va vraiment.
Non, la galère, c'est la nourriture, pour de vrai.
C'est-à-dire et ça, moi, c'est juste impossible de faire ce qu'il a fait.
Il faut manger de la protéine
tout
le temps. Quoi.
Vous avez pas matin, pris
des compléments, là, des coups de poudre.
Des fois, je prenais un peu de la... Ouais, en fait, tu dois manger du poulet le midi, tu dois manger machin. Tu dois manger... En fait, tu dois pas arrêter
c'est
de manger
omelette,
toute la journée.
Déjà, c'est omelette blanche. C'est-à-dire que le blanc...
Ouais, normalement, il n'y a même pas les jaunes des œufs.
Ouais, c'est ça, pour avoir que les protéines.
C'est une galère.
C'est un régime surprotéiné.
C'est une galère. Et donc, voilà. Parce que je me suis toujours entretenu, mais la bouffe comme ça, c'était un peu galère. Et donc, la musculation est quelque chose de très ingrat. Donc, c'est-à-dire que quand t'arrêtes, tu perds très vite aussi. Ouais. Donc, voilà. J'ai des
plus
restes,
vite,
mais.
Plus vite que les cheveux.
Comment?
Plus vite que les cheveux reviennent à la couleur naturelle.
Oui, malheureusement. Malheureusement.
Ce film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, il y a une véritable intrigue, il y a un véritable délire humoristique, visiblement pour ceux qui ont vécu Nicky Larson, aucune trahison c'est sur très, le passé, et croyez-moi pour n'avoir vu aucun Nicky Larson de ma life, j'ai passé un bon moment sans me poser la question de savoir si c'était fidèle à quoi que ce soit, juste voilà, je me suis marré, toutes les blagues fonctionnent.
J'ai envie de le revoir parce que il y a aussi tellement de blagues, il y a tellement d'effets, il y a tellement de rebondissements qu'on se dit, tiens, je suis passé peut-être à côté de quelque chose
en fait,
encore.
En fait, faut le voir 16 fois.
Payant.
Tu dois être sûr d'avoir ça soit tout payant. Compris. Quoi.
Est-ce que vous êtes adepte de vannes au second plan, à la coccinelle de Gottlieb, j'ai envie de dire?
Il y a plein de trucs. Non mais effectivement, surtout pour la génération Club Dorothée, il y a plein de trucs, c'est sûr qu'on peut pas voir à la première lecture pour de vrai. Oui.
Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. En musique, justement, on va écouter non pas la BO du film que Philippe Lachaud découvre aujourd'hui, mais les musiques que vous écoutiez dans les années, milieu des années 90. Élodie Fontan, vous écoutiez. Oui. Fin 90 même. Je sais pas si vous savez, mais cette chanson, c'est la troisième version qui est sortie.
Ah bon?
Non, ouais, troisième version. Il y avait eu une version de Régine, une autre version de Gene Manson. Les deux, ça avait été un flop le plus total. Et elle revient, elle, en 98, avec cette chanson. Et c'est un carton plein.
Génie,
la même chanson.
En même temps, Régine, quand elle chante Tu m'oublieras, les gens obéissent.
Ceci dit, la Rousseau, ça a bien fonctionné aussi.
Et pour vous, Élodie, à cette période-là, c'est votre premier rôle au cinéma. Et alors, vous avez cette chance-là, c'est qu'à chaque fois, vous avez des parents assez extraordinaires dans toutes les distributions. Là, c'est dans c'est Le plus beau métier du monde de Gérard Lozier. Et vos parents, vous vous souvenez, c'était?
C'était, Gérard Depardieu et Michel Larocque. Ouais, j'étais gâtée en parents.
J'avais 9 ans.
Ouais, j'avais 9 ans. Bon, j'avais 3 phrases, petit truc, mais ouais.
Et comment on se retrouve là-dedans?
À 9 ans.
Bah, moi, j'ai fait des photos pubs quand j'étais toute petite. Et c'est l'agence
poussée
de photos pubs.
Poussée par papa-maman?
Non, alors, un peu par hasard au début. Moi, j'avais mon père qui était journaliste. Et un jour, il a fait un reportage avec un photographe qui lui a demandé juste de me faire des photos.
Pour illustrer le papier en question. Non, mais c'était pour illustrer le papier de votre
papa. Non, c'était juste. Non, ça n'avait rien à voir, c'était en dehors du reportage. Vu que je l'avais accompagné, il avait dit j'aimerais bien faire une séance photo avec ta fille. Et sauf que c'est très réglementé avec les enfants. Et pour faire cette séance photo avec lui, j'ai dû passer par une agence. Et l'agence en fait m'a reproposé des trucs derrière, donc ça s'est fait un peu comme ça. J'ai commencé à faire des photos pubs et un jour ils m'ont proposé le casting effectivement de ce long métrage, alors qu'ils faisaient pas de, c'était pas, ils faisaient pas de film normalement, ils faisaient juste des pubs photos.
Et à aucun moment.
Et j'ai adoré du coup ce tournage.
Parce que j'allais dire à aucun moment à l'école, dans des fêtes de fin d'année, vous aviez envie de monter sur scène, vous aviez
Non, pas du tout. Non, moi et la scène c'est très compliqué. Et pourtant on vient de faire Les Enfoirés et c'était génial, mais j'ai jamais fait de scène en dehors de ça. J'ai un peu de mal à monter sur scène. Non, j'étais
à
beaucoup trop réservée.
À être devant un public, à être applaudi.
Ah ouais, monter, à partir du moment où je mets un pied sur une scène, je visualise la sortie, je me dis vite, il faut vite
c'est
que
fou,
je parte.
Ça peut être utile parfois.
Ah ouais, non, je supporte pas. Ah ouais.
Et pourtant, quand, alors, Philippe vous pousse dans des extrêmes parce qu'on a l'impression que vous êtes sans aucune limite et sans aucune réserve.
Sur un plateau, c'est pas pareil. J'ai pas cette appréhension. J'ai mon père qui était caméraman aussi, donc peut-être que du coup, la caméra. Ouais. Du coup, je suis habituée, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Mais la scène, ouais, ça m'effraie vraiment. J'ai du mal.
Et vous avez fait de la pub télé aussi?
Ouais.
Oui, pour quelques
marques. Je m'attends à un dossier, je sais
non,
pas.
Non, non,
oui.
Non.
D'accord, oui, j'en ai fait pas mal. J'ai pas mal de casseroles niveau pub.
Des casseroles, pourquoi donc?
Parce que si, j'en ai des...
Bah, Moulinex,
tu vas parler de...
Bah, je sais pas.
Ah bah oui.
Je peux parler de ce que vous voulez.
Tu vas parler de quoi?
Alors, mais c'est très cohérent avec le...
Il y a une publicité... Non, mais...
Ah non, c'est pas la publicité. Non, moi je pensais que t'allais parler de la croisière Folle Amour avec les musclés.
Mais
parce
non.
Qu'en fait, Elodie, c'était la fille d'Ilgueugueux.
C'est vrai, j'adore Ilgueugueux en plus.
Ah bah voilà.
J'adore.
Quand elle était petite,
incroyable.
Elle a fait, donc c'était la nièce des musclés. Elle était toute petite, c'était toute gamine. Alors les vidéos sont disponibles sur YouTube si les gens veulent aller voir. C'est très drôle. Hein.
Et qui était votre Et c'était qui votre préféré dans les musclés?
Oh, j'avais pas de préféré. Ils étaient tous adorables, très honnêtement. Ils étaient tous, ouais, c'était des amants.
Et elle était plus stressée de tourner avec les musclés qu'avec Depardieu.
Ouais,
parce
c'est
que...
vrai.
Non, mais c'est vrai. Parce qu'elle les connaissait, les musclés. Elle ne connaissait pas Depardieu quand elle était petite.
Et oui, je ne me rendais pas compte. Donc c'est vrai que Depardieu, j'avais pas eu vraiment de stress. Et, je me souviens, j'ai revu des extraits du premier épisode que j'ai fait sur la croisière Folle Amour. Effectivement, je rentre et je suis comme ça. Je suis hyper intimidée.
Philippe Lachaud, vous écoutiez Peter Von Paul.
Lequel? Ah oui. D'écouter ce passage-là.
Ah, le matin. À quel âge?
À 3 ans.
Il y a 20 ans.
Au milieu des années 90.
Ah non, pas à cette époque-là. Non. En fait, ça, c'est la musique de L'Arnaqueur. Et L'Arnaqueur, c'est le premier film dans lequel j'ai joué dans ma vie. Donc, c'était en 2009 ou 2010.
D'accord, pardon, on a inversé alors. Et en 98, vous écoutiez quoi alors?
98.
Monde à Coupe du Monde de football.
Ah oui, je pense que j'écoutais comme tout le monde. La 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 la.
Hermès Housebound.
J'écoutais quoi d'autre?
I Will Survive.
Bon, ouais, Michael Jackson. Non mais Michael Jackson, je suis grand fan de Michael Jackson.
Et vous, c'est votre. Cette époque-là, ce sont vos premières vidéos comme Matt et Rick.
Philippe, je suis obligé de vous dire, vous êtes le jumeau de Leïla. Vous êtes né exactement le même jour, le même mois, la même année.
On se l'était dit.
Ouais, truc de dingue, quand même.
On se l'était dit. C'est truc incroyable. De dingue.
Comme c'est quand même la naissance de la beauté.
Moi, je pense qu'on peut finir l'émission là-dessus.
Ouais, moi, déjà là-dessus.
Quand vous étiez brun dans le film, j'ai cru que vous étiez son frère.
Mais on va parler de Matt et Rick. Deux flics qui en ont dans le pantalon, Philippe.
Oui, alors, en fait, j'étais jeune. Et j'avais fait un sketch qui s'appelait Matt et Rick. Deux flics qui en ont dans le pantalon. Voilà, donc c'était une parodie de...
Assumons donc, lisons ça, Matrix.
Voilà, c'était l'époque donc, où j'avais ma fameuse caméra que mes parents m'avaient offert. Et donc moi, je faisais plein de sketchs et je les balançais. Je me suis dit, le cinéma c'est trop dur, je vais commencer par la télé. Donc j'envoyais mes cassettes partout à la télévision. Et un matin, il devait être 7h30, j'habitais chez mes parents, ma mère vient me réveiller et me dit, Philippe, réveille-toi, il y a M6 au téléphone. Je comprends pas. Je prends le téléphone et là je suis avec Michael Youn en direct... qui est en direct au Morning Live en train de me parler et qui me dit « Salut Philippe, t'es en direct, écoute, on a reçu ta cassette et bah du coup on va passer ton sketch Matrix. De fait qu'on en a dans le pantalon. » Et du coup je suis en pyjama et je me vois pour la première fois de ma vie à la télé. Et c'est comme ça que moi tout a commencé.
C'est fou, ça.
Après, le directeur de Fun TV, puisque Fun TV était une petite chaîne d'M6, a récupéré la cassette. Et j'ai commencé comme ça sur Fun TV.
Et M6 qui est fidèle, puisqu'ils sont partenaires de votre
et
film.
Et M6 qui continue de m'accompagner, c'est assez dingue.
Très bien. En 2005, Élodie Fondant, vous écoutiez... Don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times. Cette musique-là vous renvoie à quoi? à des sorties en boîte de nuit, une soirée étudiante.
Exactement. Ouais. Ouais, j'avais ma meilleure amie à l'époque qui était totalement fan aussi. Et on écoutait ça à chaque fois dans la voiture, partout en soirée ou quoi. C'était notre grand truc. On adorait cette chanson.
Il se passait quoi en 2005?
En 2005, vous sortez du cours Florent.
Ah ouais?
2 ans passés là-bas, qu'est-ce que vous retenez de votre... J'ai vu de 2003 à 2005, mais c'est peut-être un peu plus long.
En fait, Conflans, j'ai fait juste des stages d'été.
D'accord.
J'ai fait juste les petits stages et j'ai fait une autre école qui était plus, plus réduite, on va dire plus...
moins prestigieuse, donc on en parle moins.
C'est ça.
Les cours Bernard.
qui s'appelait Côté Cours et qui était une très bonne école. Et
que, des trucs payants, parce que mes parents sont blindés, ils ont payé tout ça. Il y a un problème?
Parce que vous ressentiez le besoin de vous disiez, voilà, je veux vraiment devenir comédienne, donc il faut que je passe par une étape de formation nécessairement, parce que comme vous avez commencé quand même finalement assez tôt.
Ouais. Bah non, à la base, en fait, après, mes parents m'ont dit, passe ton bac, déjà, fais quelques études, après on verra.
Ouais.
Et je m'étais inscrite pour faire une fac de journaliste, et en fait, c'était un nouveau parcours, il n'y avait pas assez d'élèves, donc ils avaient fermé le parcours, ils m'avaient orientée en histoire, je crois. Je me suis dit, bah non, je peux pas, en fait, je peux pas faire un parcours histoire, Donc je me suis retrouvée à la rentrée sans fac, et je me suis dit, bon, bah alors, on va tenter une école de théâtre. Pendant un certain temps, et puis on verra derrière.
Presque par dépit, quoi.
Ouais, parce qu'à la base, j'étais très contente, au final. Hein, oui. Mais à la base, oui, je voulais assurer quelque chose de plus stable.
Philippe Lachaud, à ce moment-là, vous écoutiez...
Je vous présente, à quête, le nez pointu comme une fléchette.
Alors non, pas du tout.
Ça a bien changé que la chanson d'avant.
C'est ça.
Il ne signe à la pointe de son nez. Si, alors, en fait, c'est parce que j'arrive sur Canal+, dans l'émission de Carl Zéro, qui s'appelle Le Vrai Journal, et on avait une rubrique qui s'appelait La Cave à l'Info. Et c'était l'actualité revue par les jeunes, un petit peu de banlieue, et c'est là que voilà, j'étais avec Tarek, Julien, machin, et on faisait des...
Ouais, déjà, Tarek Boudali, Julien Ruti, ils font partie de la bande.
Et mes autres copains, voilà, et c'était tous les mercredis, donc tous mes copains qui étaient au chômage, je leur disais, venez, on va rigoler, on va faire des sketchs pour Canal+, et voilà, et on tournait ça chez mes parents, on faisait un décor de cave chez mes parents, mon père partait au travail le matin, et du coup on enlevait tous les meubles, on montait un décor de cave nous-mêmes, et on devait se dépêcher de finir le sketch avant qu'il rentre le soir.
Et puis après vous enchaînez dans Le Grand Journal avec la bande à Fifi, un sketch tous les jours, là aussi, avec des moyens ou pas du tout? Comment est-ce que ça s'organise? On connaît la belle époque où on parle des nuls et on se dit ils étaient capables de sortir des décors assez incroyables en une demi-journée. Vous, comment ça marchait?
Non, franchement on était gâtés, hein. C'était une super époque pour nous, c'était incroyable. On arrivait au Grand Journal, enfin voilà, déjà on était à Canal+, la chaîne du cinéma, la chaîne qui a fait commencer Jamel Debbouze, Les Nuls. Pour nous, c'était déjà une consécration. En plus de ça, on était encore à l'époque où le Grand Journal, au moment du Festival de Cannes, allait à Cannes. Donc, on a découvert...
Les marches.
Le nombre de marches. Le nombre.
49 marches.
Ils ont changé depuis.
et donc, on a rencontré des stars internationales, même des stars françaises. On faisait des sketchs devant eux. C'était un moment fou. Et vivre tout ça entre potes. Voilà, c'était des moments exceptionnels.
C'est marrant, on a l'impression d'entendre des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se demande qui sera la nouvelle génération pour le cinéma, pour l'écriture, pour l'humour, étant donné qu'il n'y a plus vraiment de terrain de jeu ou de liberté de jeu.
Internet.
Entre la liberté et les moyens.
Internet.
Ouais.
Ouais, non, mais potentiellement, ouais.
C'est vrai que Canal+ a permis à de nombreux talents, enfin, que ce soit Alain
c'est justement,
Chabat,
ouais, ce que j'allais dire. Est-ce que les nuls, on a vérifié, il y a 24 marches à Cannes, donc si jamais vous voulez. est-ce que les nuls font partie de vos références? J'ai le sentiment, ouais, quand on voit Nicky Larson.
Évidemment, je connaissais les sketchs par cœur. On a eu l'honneur et la fierté, pareil, que Dominique Farrugia nous produise au théâtre à une époque. Bon, il a revendu sa voiture après tellement ça n'a pas marché. mais au moins, on a eu la fierté de travailler avec lui.
Élodie Fontan, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Ruti, entre autres, et toute une liste d'artistes, que ce soit des guests ou des guests ou des fidèles, présents dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Justement, on parle de Nicky Larson avec un spécialiste, Sébastien Abel Amine, merci de venir à ce micro. Sébastien, vous êtes journaliste spécialiste de manga, vous travaillez à Canal, justement. Nicky Larson, c'était un dessin animé, on en parlait juste avant cette émission, plutôt pour adultes.
Oui, alors déjà bonjour. Spécialiste, c'est un mot un peu galvaudé parce qu'aujourd'hui tout le monde est un peu spécialiste et on trouve toujours plus spécialiste que nous. Alors oui, en fait, nous on a découvert Nicky
Larson.
Vous
y connaissez quand même quoi, un poil.
Oui, bah c'est okay. Une partie de mon métier, voilà. Heureusement. Hein,
ça tombe bien. Continuons.
Là pour faire,
quand un mec est payé pour un truc qu'il connaît, on appelle ça un spécialiste.
Ouais, mais enfin c'est un peu.
C'est là le problème.
Donc voilà. Daniel, tu vois ce que je veux dire. Hein, voilà.
Je sais de quoi je parle.
Donc oui, en fait, nous on a connu d'abord Nicky Larson sous sa forme animée par le Club Dorothée en 90. Mais à la base, c'est un manga au Japon plus destiné aux adultes, un manga qui s'appelle City Hunter, et qui est destiné aux adultes et adolescents, parce que concrètement, c'est quelque chose d'assez sombre, avec aussi son côté pervers, qui est vraiment exacerbé dans la version originale. Il se passe plein de choses qu'on n'a pas connues en France, puisque la version de l'animé a été censurée.
Donc il y avait des images, des scènes qui étaient censurées entre le Japon et la France.
Ah bien sûr, pas que des images et des scènes, il y avait carrément même des lieux où Nicky Larson se rendait parfois, qui ont été transformés dans
mais
la
comme
version
quoi
française.
Non, mais comme quoi
comme parfois, il allait il allait au restaurant. C'était pas
oh
vraiment,
non
au restaurant.
Pas au restaurant,
allait...
arrêtez.
Oui.
C'est choquant.
Non. Enfin,
en fait,
en
il
France,
remplaçait
hein.
Les hôtels de passe. Des fois, c'est voilà. Vrai qu'il allait dans des restaurants végétariens.
Voilà.
Dans la version française, il disait viens, je t'emmène au restaurant végétarien. Alors que dans la version originale, il disait viens, on va. Ouais, c'est un peu ça.
Alors, pas vraiment ça, mais non, mais c'est vraiment vraiment, Nicky Larson, c'est un seinen à la base. C'est-à-dire, c'était un manga qui est destiné aux adolescents et aux adultes. Et voilà, c'est vraiment sombre. C'est du polar, vraiment. Mmh. Hein, faut le dire, hein, c'est du polar. C'est devenu de la comédie en France avec la version Nicky Larson,
d'accord.
Notamment dû au doublage. Qui assez grandiloquent parfois et c'était toute cette
donc
période.
La VF est plus drôle que la VO.
Bien sûr. La VF en fait toute la VF non,
j'avais l'impression que le père de Nicky Larson était très regardant sur les adaptations. Donc comment
alors,
a-t-il laissé
en fait,
l'humour prendre le dessus sur
c'était
la
notre époque. C'était notre époque. Ojo est effectivement très regardant. Il faut savoir qu'Ojo, avant Nicky Larson, il a fait Cat Size. Cat Size qui est beaucoup moins sombre et qui a été aussi adapté en animé en France. Mais à l'époque de Nicky Larson, c'est une époque où l'animé japonais s'exportait à peine. Nous, en France... Tout a été acheté en masse et c'était traduit un petit peu parfois pas n'importe comment, mais avec les moyens du bord.
Est-ce que ça choquait au Japon ?
Non, ça n'a pas choqué parce qu'ils ont découvert ça très tard. Donc ils l'ont pas découvert.
Non,
ce que je veux dire,
Nicky Larson choqué la version originale.
Pardon.
Est-ce qu'elle était
Non, c'est pas choquant au Japon parce que encore une fois, c'était pas destiné aux enfants. Mm. Le manga au Japon et même en France maintenant, c'est pas à destination seulement des enfants. C'est comme le cinéma, il y a un genre pour tout. Il y a des genres qui sont destinés plus aux adultes, des genres qui sont destinés aux adolescents, plus un public féminin, plus un public masculin. C'est vraiment pour tout le monde.
Alors justement, je disais tout à l'heure que Laura avait le personnage interprété par Élodie Fontan. Était féministe. C'est de la vision que j'ai eue du film. Alors maintenant, est-ce qu'elle l'est dans Nicky Larson?
Oui, on peut le dire. Laura, c'est Kaori dans City Hunter. C'est une femme forte qui a un passé un petit peu compliqué, qui a subi des épreuves. Et sa relation avec Nicky, elle est ambiguë puisqu'il y a une relation un petit peu amoureuse entre les deux. Mais oui, c'est une femme forte. Elle n'hésite pas, elle sait se défendre tout seule. Elle remet Nicky à sa place quand il le faut.
Vous dites qu'il y a un passé lourd. C'est quoi le passé de Laura ou de Nicky Larson?
Bah, déjà, le passé de Kaori et de Laura, son frère est mort. Elle a été recueillie par Nicky Larson. Mais justement, Nicky, pour ménager sa susceptibilité, lui amène pas comme ça. Donc, pour qu'elle reste auprès de lui, il s'associe, en gros. Mais voilà, son passé, il est compliqué. Parce que, perdre son frère qui s'est fait assassiner par la pègre, j'ai pas de frère, mais j'espère qu'il n'aura pas ce même destin. Mais je suppose que ça fait mal.
Si on n'avait pas, non. Voilà. Ça risque pas de lui arriver. Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de mangas adaptés au cinéma? Est-ce que Nicky Larson est un de plus ou
alors,
est-ce que c'est
une question très intéressante. Il n'y en a pas énormément et il faut dire une chose, c'est que le film de Philippe, par rapport aux avant-premières, reçoit un... Vraiment, c'est élogieux alors que beaucoup de fans...
Il est adoubé par les fans de manga,
ouais, non, mais faut être honnête parce que moi, quand le film est sorti, je connais un peu Philippe et je connais son travail, j'apprécie son travail. Malgré tout, quand on se dit Nicky Larson, qui sort en film français... On a
attention.
Toujours, on se dit, waouh. Donc, moi, j'ai toujours dit, attendons de voir avant de juger. Parfois, certains ne l'ont
c'est
pas
bien.
Fait, ont commencé à critiquer. Mais aujourd'hui, tous les retours, même des fans les plus hardcore que je connaisse, disent hardcore. Franchement, c'est réussi.
J'aime bien le terme hardcore.
Non,
et
parce
fan.
Que voilà, la japanimation et le manga, c'est quelque chose qu'on a connu dans notre jeunesse pour toute la génération Club Dorothée. C'est quelque chose auquel on tient.
Il y avait déjà eu un Jackie Chan qui avait fait.
Oui, alors Jackie Chan a joué dans une adaptation de Nicky Larson en 93, mais c'est complètement anecdotique. Le film reste aujourd'hui dans les mémoires parce qu'il y a une scène liée à un jeu vidéo qui est Street Fighter 2, qui est somme toute peut-être la scène la plus réussie d'une adaptation de jeu vidéo en film. Mais sinon, par rapport à l'histoire de Nicky Larson, c'est un raté.
Est-ce qu'il y a d'autres mangas qui vont dans les semaines ou mois qui viennent être
Bien sûr, il y a justement, Philippe, tu parlais de Cameron, mais Cameron est aussi, James Cameron, un grand fan d'animé japonais et de manga, et il a travaillé pendant quasiment 20 ans sur l'adaptation de Gunm, qui devient donc Alita. Il a refilé le bébé à Robert Rodriguez pour s'occuper de Avatar 2, mais c'est un film qui va sortir prochainement au cinéma et qui est lui aussi réussi.
Réalisé par James Cameron ou produit par James Cameron?
Il a été scénarisé par James Cameron, il est réalisé par Robert Rodriguez, mais c'est vraiment Cameron qui a la jeunesse de tout le projet.
Qui a chapeauté le truc, ouais.
Mais il pouvait pas s'en occuper à cause de Avatar 2 pour la réalisation.
Donc spécialiste de manga, hein, j'y peux rien, vous l'avez prouvé à l'instant. Chroniqueur sur Canal Plus, Sébastien Abdelhamid.
Tu savais tous les escrocs qu'on a reçus, c'est pour ça qu'on est fiers. Si tu savais.
Merci Daniel.
Visiblement, vous vous connaissez entre escrocs.
Bien sûr.
Tanguy Passiro, bonjour. De plus en plus de gens rêvent de se déconnecter d'Internet.
Bah oui, parce qu'ils ont l'impression d'être sollicités en permanence. Rien que ce matin, j'ai reçu 4 alertes BFM disant qu'il ne neigeait pas. Plus une alerte Morandini disant que Morandini sur CNews avait dépassé CBS en audience. Un hôtel en Suède a réfléchi à ce besoin de déconnexion et propose la nuit gratos aux clients qui parviennent à ne pas se connecter.
On en parle juste après les infos. C'est la bande originale avec Léla Kadobudali, Daniel Morin, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Alexis Le Rossignol et nos invités, Élodie Fontan et Philippe Lachaud.
Bonjour.
Pour un film que nous avons aimé, qui est drôle, qui vous permet de passer un très bon moment, on peut dire tout public, oui, il y a quelques allusions un tout petit peu en dessous de la ceinture, mais pas plus que dans les cours de récré.
Et que dans nos autres films non plus.
Oui, c'est ça.
Si on a aimé les autres films, ça va.
Donc, le fameux... Bien moins que dans les cours de récré.
Ouais, c'est ça. Vous avez aimé Babysitting comme Babysitting 2, Alibi.com ou Épouse-moi mon pote, vous aimerez.
Et même, moi j'avais détesté tous ces autres films, celui-là, je l'ai aimé. Allez-y, hein, les gars.
Nicky Larson et le parfum de Cupidon, avec donc Élodie Fontan et Philippe Lachaud qui sont nos invités, mais également Tarek Boudali, Julien Ruti, Didier Bourdon, Pamela Anderson, Gérard Jugnot, Kamel Genfoud, Audrey Lamy, Chantal Latsou, Jarry, Raphaël Persona, Rim Kérissi, Mehdi Sadoun, Dorothée, Arben Bajrak Taraj, Jérôme Le Bannier, Eddie
Le Banner,
Nafa.
Le Banner.
On dit Le Banner, oui, Jérôme Le Banner. C'est vrai qu'on
dit Jérôme Le Banner, généralement.
Oui, parce que c'est écrit comme ça, en plus.
Et si jamais on lui dit que t'as prononcé ça comme ça, Nagui,
tu vas perdre 2-3 chicots.
J'ai pas peur, il vient quand il veut.
Laisse-nous une heure, on va organiser ça. Octogone. Allez,
Bouche Nafa, Sophie Mouzel, Achille Potier, Justine Le Potier, Lia Kebed.
J'essaie de saluer Waïd, Paul Serré aussi, qui font les videurs de...
Et voilà. D'accord. C'est drôle. Bah, tu connais tout le monde, toi. Toi, tu fais partie de ces générations. Moi, pour moi, ce sont des Jones. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est extrêmement drôle. Est-ce qu'il y a eu des scènes plus difficiles, Élodie Fontan, à tourner que d'autres, à cause des cascades, à cause des...
La scène de Julien qui fait du pole dance. Je trouve que ça a été très difficile à tourner parce qu'on était tellement tous morts de rire. Moi, je ne tournais pas ce jour-là. Je suis venue juste pour voir sa scène. C'était magique. Mais ma meilleure scène.
Moqueurs les uns avec les autres. Vous ne pardonnez rien. Et à l'inverse, alors qui se moque de vous, à quel moment vous?
À quel moment ils sont moqués de moi?
À quel moment vous êtes senti
l'ascenseur.
Ah oui, l'ascenseur.
Je suis restée bloquée parce que ça a duré un moment. Je suis restée suspendue quand
Donc on peut expliquer que vous êtes avec une robe longue, une tenue de soirée. La robe est coincée par les portes coulissantes d'un ascenseur.
Qui monte à l'étage.
L'ascenseur monte et descend. Et on n'attend qu'une chose, c'est qu'il aille très loin, cet ascenseur. Évidemment, ça marche. Est-ce que vous donnez des limites, Philippe Lachaud, dans la vanne, dans le gag, dans la...
Non, à la limite, c'est que ça fasse rire sans jamais que ce soit gênant ou dérangeant ou...
Mais gênant ou dérangeant pour qui? Pour le comédien qui subit, parce qu'on peut...
Sur le tournage, il y a des limites sur le tournage. Ah non, avec les copains, zéro limite.
L'anecdote des crocodiles prouve bien qu'il n'y a pas de limite pour les tournages précédents.
Non, c'est vrai qu'on aime bien se charrier, on aime bien se faire la misère entre copains, ça nous fait rire. C'est peut-être pour ça que ça dure aussi.
Et vous êtes comment? Vous êtes patron sur le tournage si justement l'un des potes dit non, ça je peux pas. Si j'arrive, vous dit non, je me mets pas nu. On trouve une solution, mais je fais la scène.
Alors
mais
ça
pas
m'arrange
totalement
pas. Hein, si ouais. Il se met pas nu,
bah oui.
Pour si dire je le dis sur le tournage, c'est chiant.
Non, mais on l'a pas dit avant. On échange beaucoup. L'idée, c'est que tout le monde soit content, que ça se passe bien. Et de toute façon, on va tous dans la même direction. Le but, c'est de faire rire les gens, et puis voilà. Si...
Mais mets-toi à poil quand même.
Mais mets-toi à poil, ça va faire rire.
Alors quand on est copain avec tout le monde comme ça, j'imagine que sur un plateau, est-ce que quand on a besoin de lever le ton ou d'imposer des choses, c'est plus compliqué?
Non, je m'énerve jamais. Ouais. Moi, sur le plateau, franchement, je m'énerve jamais. Mais en fait, c'est ça, c'est que je suis quand même hyper concentré. Même si on fait de la rigolade ou quoi, machin, j'ai tellement de trucs en tête, je suis très concentré. Les autres font les cons. Tout le temps. Mais ce qui est marrant, c'est que quand Tarek, lui, réalisait son film Épouse-moi mon pote, c'était l'inverse. Ça me faisait rire parce que lui, il était dans une bulle très concentrée et là, c'est moi qui venais un peu le titiller, un peu le...
Nicky Larson, c'est un peu vous. C'est-à-dire que Charlie...
Alors... ah bon?
Alors... Pour le côté très courageux, oui.
Il vous ressemble.
le côté qui se bat très très bien. Mais après, voilà, le côté un peu débile, non, pas trop... voilà, on va rester là-dessus.
Il y a quoi? Non, mais il y a. Et quel est le point commun entre Nicky Larson et vous? Sincèrement.
Pour de vrai?
Ouais.
Il a bon goût avec les femmes.
Voilà.
On va dire.
Très bien. Oh là là, la classe.
Non, le côté 5 ans, dit-il. Un peu, mais pas devant les nanas. Mais Philippe Lachaud, ça lui arrive souvent comme ça d'avoir 5 ans, à des moments ivri, tu sais pas pourquoi, et il a 5 ans d'âge mental, mais pas que quand il y a des nanas.
Pas que,
c'est non, quoi les autres moments là
quand il fait des pâtes. Je sais pas, à des moments, il ça, quand il fait une omelette, il brise, il balade,
jette les œufs sur les murs et tout.
Comme, tu vois, la danse dans la Libye, on avait une danse comme ça où on dansait tous les deux en version effectivement un peu débile. Bah, un peu pareil, mais ça lui prend comme ça sans prévenir. Je mens ou je mens pas?
Bah, je vais.
Voilà,
il y a un nouveau 5 ans. Comme s'il se faisait gauler.
Mince, elle l'a dit.
Ça se trouve, il a une grave maladie.
Il n'a pas besoin de nana pour avoir.
Nicky Larson sort aujourd'hui au cinéma et vous pouvez y aller en toute confiance. Vous passerez un très bon moment. Voici Tanguy Pasturo. Tanguy, j'ai envie de vrai, d'authentique, de retour à l'essentiel.
Ouais, je comprends, Nagui. Moi aussi, j'aimerais être avec vous dans un pré en train de faire cuire sur un feu de bois des saucisses certains. L'homme moderne, coupé de ses racines, a soif de naturel, de poils, d'odeur corporelle. Vous lui montrez une photo de Daniel Morin dans le Périgord en train de caresser un castor, il devient moite. Si en plus Daniel est en short, il entre en érection. Et si le castor lui aussi est en short, il jouit. On rêve au fond que de choses simples. Un pain de campagne, un litron de gnôle, la vie de Jean Lassalle. Avec cette flamboyance que constitue le fait de mourir d'une MST à l'âge de 26 ans. Mais on s'est collé tout un tas de besoins factices, comme par exemple Internet, ce truc qui a permis l'avènement de Macron, puis d'Éric Drouet, puis de Bilal Hassani, mais surtout de Grumpy Cat, un chat qui fait la gueule. La bête ressemble à Isabelle Huppert si elle est pris des hormones le même mois où elle avait perdu sa pince à épiler. Avant Internet, on était heureux. Pour réserver un vol Paris-Madrid, on allait à l'agence Air France, on se faisait envoyer paître par un guichetier à cariatre. Pour acheter du sel, on allait au Monop, on se faisait envoyé bouler par une caissière qui nous jetait la monnaie à la gueule. On se sentait en France. Moi, j'ai des amis vivant à l'étranger qui m'appelaient en me disant « J'ai le mal du pays, insulte-moi !» Je leur répondais « Pourri, ordure, fan de la Rousseau !» C'était il y a 20 ans. Hein. Mais maintenant, il y a l'appli Kayak pour les billets d'avion, l'appli Oura pour les courses, l'appli Tinder pour faire l'amour. Avant, il fallait aller dans un bar, payer des verres à la personne, un verre si on était désirable, 37 si on était moche, faire croire à l'autre qu'on était majeur, et à 4h du matin, être trop crevé et dire « Bon bah ciao !» Non mais aujourd'hui avec Amazon Prime à Paris, vous commandez en ligne une laitue, on vous la livre dans les 30 minutes. C'est-à-dire que la laitue arrive plus vite que le SAMU si Mamie Renée est en train de crever dans le salon. Mais qui a besoin qu'une laitue arrive en 30 minutes à part Henrik Caron? Dimanche, j'étais dans le TGV de retour de Toulouse, hein, grande ville de musique puisqu'elle nous a donné Jean-Pierre Madère et les groupes Gold, Image et Pacifique. Toulouse, c'est le Memphis français. Et bah dans le TGV, on peut commander son café sur une appli et aller le chercher au bar, il est prêt. Ce qui ne sert à rien, on gagne 25 secondes. On fait rien en 25 secondes. Sauf Laurent Deutsch qui a le temps de dire 12 phrases. Bref, Internet, ça n'est que du temps perdu, mais c'est dur de se déconnecter. Car on a l'impression d'exister juste parce que 4 pleut plus, on likait la photo de notre chien. C'est pourquoi en Suède, un hôtel nous aide à faire ça. Alors un hôtel suédois, c'est comme un hôtel chez nous, sauf qu'au lieu d'entendre dans la chambre voisine, oui, oui, vas-y mon gros loup, on entend ya, ya, je t'aime mon élan. Alors cet hôtel, le Bellora à Göteborg, propose une nuit gratuite à toute personne qui arrive à se passer d'Internet.
Mais comment prouver justement que les clients ne se connectent pas sur Internet?
Eh bien Nagui, parce que les chambres sont équipées de lampes intelligentes. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. Je pense que ce sont des lampes qui refusent de s'allumer quand vous avez dans la main le télé Z. Vous prenez un Guillaume Musso, elles clignotent légèrement. Vous prenez Critique de la raison pure de Kant, elles font solarium. Et ces lampes sont capables de calculer le temps qu'on passe sur Internet. Elles ont la même fonction qu'une mère pour un ado, sauf qu'elles ne lavent pas les slips. Alors au départ, la lumière émise est blanche. Plus on se connecte, plus elle devient rouge. Le matin, un monsieur de l'hôtel vient voir la lampe. Si elle est restée blanche, c'est que le client ne s'est pas connecté. Hein. Il gît sur son lit avec de la bave parce qu'il est en manque. Il a donc la nuit gratuite. Puis on lui lit les dernières news sur Yann Moix, on lui donne des nouvelles des fesses de Kim Kardashian et peu à peu, il récupère en murmurant « Ah, c'est bon !» et le clash Joe Star Hanouna, ça en est où? En fait, cet hôtel donc répond à une mode, celle des vacances déconnectées. Les gens ont envie d'arrêter Internet mais n'y arrivent pas seuls parce que c'est une drogue. Moi-même, si à la fin d'une chronique, j'ai pas minimum 60 messages sur Twitter me disant « Tanguy, t'es magique, quand je t'écoute, je me pisse dessus, c'est en partie à cause de mon âge, mais pas que ben, !» je tombe en dépression. Donc, ils trouvent des offres de vacances sans Internet. Soit aller dans un hôtel comme celui de Suède, là, soit aller dans le Cantal, où on ne reçoit pas Internet, ni la radio, ni la télé. Frédéric Lopez a vu pour y envoyer Cadmera au contact des autochtones. Alors, à noter qu'en plus, une étude publiée par des chercheurs américains, selon une étude, les utilisateurs de Facebook déconnectés pendant un mois sont plus heureux. Les effets sont immédiats. Vous passez de la tête de Martine Aubry un soir de déprime à celle de David Guetta quand il a réussi à mixer avec le doigt de pied. Et pourquoi ce bonheur? Eh bien parce que les gens déconnectés ont passé plus de temps avec leurs proches. Ah ouais. Chose qu'on ne fait plus. Hein, moi, il y a des gens de ma famille que je vois plus sur Facebook qu'en vrai. Quand à un mariage, on se retrouve, par habitude, j'essaye de les faire défiler avec le doigt. Hein, une fois sur deux, je leur récure la narine. Enfin, ils le prennent mal. Mais les déconnectés sont aussi plus heureux parce que selon l'étude, ils regardent plus la télé. Hein, normal. À la télé, on voit Castaner dire la manifestation de samedi c'est bien déroulé, il y avait 50 000 manifestants et 7 millions de policiers. On se dit c'est bien géré. Au même moment, sur Facebook, Maxime Nicole dit ça va péter Macron, on va le défoncer. C'est anxiogène. Bref, si on coupe Internet, on est mieux. Regardez-moi, ça fait 5 minutes que je me suis pas connecté. Je suis super content.
Merci, Tony Bonjour. La bande originale. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. On a évoqué la paternité de Nicky Larson, le fait que vous soyez parti au Japon avec le scénario sous le bras. Je voudrais juste savoir ce qui s'est passé pendant le vol. C'est-à-dire vous aviez le trac de la lecture de l'autorisation.
Ah, c'est terrible. C'est-à-dire donc je pars au Japon. Je ne parle pas japonais. Dans un pays où je suis jamais allé. Et là, je joue un an et demi d'écriture de film, ça se trouve, et pour revenir en disant, bah, en fait, je fais pas le film.
Mais vous l'avez envoyé avant d'y aller quand même, non?
Non, j'y vais avec le scénario traduit.
Tout seul?
Ouais. C'est-à-dire que j'y arrive, je rencontre,
Elodie, vous auriez pu y aller aussi.
Non.
Les mystères de l'amour.
Il y avait les mystères de l'amour à la télé.
Ça, c'est lui qui regarde.
J'aime les mystères de l'amour.
Mais il coupe le son et il double en même temps.
Donc, je pars là-bas, donc avec le scénario traduit. J'y vais avec les gens de Sony Columbia, des Américains. Je parle pas anglais non plus. Donc, j'arrive là-bas. Il y a des traducteurs de partout, mais j'avais préparé mon exposé. Monsieur Ojo arrive dans la salle, donc je suis là. Donc je fais des phrases courtes pour que le traducteur puisse lui expliquer. Je lui remets le scénario traduit en japonais et il a 48 heures pour me donner sa réponse. Mm-hmm. Donc moi je suis à Tokyo, je suis jamais venu à Tokyo, mais je profite pas du tout. Parce que en fait je dors pas, je suis stressé, je reste dans ma chambre.
Vous auriez pu aller voir Carlos Ghosn.
Je suis pas. Oui, voilà. Il était pas là-bas encore à l'époque. Ah. Et voilà. Et 48 heures après, je le revois et tout. Et là, super bonne ambiance, il nous dit qu'il a adoré le scénario.
Il n'a rien voulu changer à ce que vous avez dit.
Il y a eu 3 petites modifs, il avait complètement raison. Des détails.
D'accord.
Mais ouais, des détails.
Comment vous les expliquez, les blagues, par rapport aux musiques, par rapport à Lara Fabian, par rapport à comment il...
Ça, la grande chance que j'avais, c'est que... Mais ça, c'était une grande chance.
C'est qu'il y avait Mozart. Ça, il connaissait Mozart.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mozart dans le film. Non, c'est que le traducteur que j'avais était un Français qui habitait au Japon. Et donc lui a pu lui expliquer...
Il avait les codes de la société.
Exactement, tous les codes du Club Dorothée et tout, il lui expliquait, du coup il captait et trouvait ça hyper intéressant.
Mais vous, justement, vous n'avez pas cherché à internationaliser le film, c'est-à-dire à éviter les codes franco-français et pour pouvoir doubler le film et le distribuer aux États-Unis, au Japon,
déjà, si on avait joué en anglais, on nous a expliqué qu'à l'international, les films se vendent beaucoup mieux.
Vous êtes passé à côté de quelque chose, là, je pense.
Mais alors déjà, je parle pas anglais, je suis vraiment une brêle. Et en plus, non, nous, on voulait faire un film avant tout pour les Français. Moi, ce qu'on voulait, c'est faire les gens qui ont connu.
Alors, ça se double, un film comme ça, et la musique éventuellement peut changer. On voit bien les films d'Adam Sandler qui font plein de clins d'œil à des trucs américains qu'on connaît pas, et ça marche quand même. Ouais.
Non, mais c'est pour ça, nous, la priorité, c'est de faire rire les Français. Ouais. C'est vraiment ce qu'on veut, et après, si ça s'exporte, c'est du bonus pour nous.
Est-ce qu'il a vu le film une fois que vous l'avez tourné?
Bien sûr, il est venu il y a quelques semaines là, en France, donc là, remoment de pression. Je suis en salle de montage, le film est pas fini complètement plus, il vient avec sa femme, je suis en salle de montage.
Ah, lui, il vient avec sa femme.
Oui, lui.
Mais il n'a pas les mystères de l'amour.
Vous avez remarqué?
Non, mais il y a des gens qui s'aiment et d'autres qui sont ensemble.
Et j'appuie sur la barre espace pour lancer le film et là je m'enfonce dans mon fauteuil.
Donc en plus il le voit sur une télé.
Oui, sur un grand écran montage. Ouais, il le voit pas dans les meilleures conditions en plus. Et là, voilà, je l'entends commencer à rire.
Il le voit, il a raison, Alexis, il le voit en français ou sous-titré?
En fait, il connaissait le scénario parce qu'il l'avait lu, donc il connaissait l'histoire. C'est pas sous-titré, il y a le traducteur à côté au cas où. Mais dans le film, il y a quand même beaucoup de références visuelles, il y a beaucoup de choses. Et voilà, il a tilté
il
sur,
a jarré à poil,
sur plein de détails. Voilà.
c'est le vendeur.
Non, mais c'était un grand moment très... Enfin, pour moi, je me suis revu petit garçon, rencontrer ce monsieur qui me faisait rire sur mon canapé quand j'étais petit. Et c'était un moment très touchant pour
moi. Alors, ce que je dis, c'est que ça va sûrement avoir un effet, justement, de nostalgie, de doudou pour ceux qui connaissent Nicky Larson. Mais je ne veux pas non plus que les gens qui ne connaissent pas Nicky Larson se sentent exclus de ce code-là. Donc, j'insiste sur le fait qu'on peut très bien voir le film, se marrer. Alors oui, sûrement, il y a des codes que je n'ai pas vus. Il y a des vannes qui n'ont pas eu le même impact sur moi que ceux qui ont grandi avec Nicky Larson. Mais ça marche. On passe vraiment
C'était très important pour nous sur l'écriture. Ouais, on s'est mis la pression. On voulait surtout pas que ce soit excluant, effectivement, pour ceux qui connaissaient pas.
Et vous, Nagui, vous avez connu Mozart.
Donc moi, je l'ai lancé dans Taradada, Mozart. Sans moi, rien. On voit bien, Daniel, qu'à l'âge adulte, nostalgique de nos lectures, des dessins animés de notre enfance. Je disais, c'est comme un doudou contre le monde extérieur, parfois méchant. Dans chaque adulte, il y a toujours un enfant qui sommeille. C'est ce qui fait qu'on est des êtres vivants.
Oh, le chameau, le fennec, le gnou. La gerboise. Oh, c'est de la torture. Guantanamo, c'est le Club Med à côté de vous. Oh merde, ça y est, ça recommence. Je respire mal, je suffoque, j'ai les tempes qui cognent, je transpire dans la bouche, ça monte, je vais vomir. Ah, non, faux salaire, j'ai ravalé. Leïla, file-moi ta ponceuse des Trois Suisses, vite! Je vais lui faire une rhinoplastie façon Bricorama au satyre d'Alexandrie. S'il a plus de nez, peut-être qu'il prendra moins de coke et sans drogue, peut-être qu'il dira moins de niaiserie. J'en peux plus de ces phrases de bisounours à la sauce guimauve, on dirait Drucker sous opium. J'en peux plus, monsieur Guy, j'en peux plus de vos sorties verbales, des mots qui viennent s'échouer mollement sur mes tympans, provoquant en fin de phrase une coulée de malaise. Et que c'est un doudou rassurant, nanana. Et que le monde extérieur est méchant, gnagnagnan. Et que l'adulte que l'on est, l'enfant sommeille en lui, ninini. Alors c'est vrai. J'en conviens tout de même. Vous avez gardé de l'enfance et du passé une espèce de nostalgie dans laquelle nous plongent les dessins animés. Vous êtes mignon comme Ken le survivant quand il fait exploser la tête d'un méchant avec un doigt. Vous êtes câlin comme une Candy quand elle fait l'amour à son raton laveur, Capucin. Mais vous êtes con comme un chevalier du zodiaque qui croit pas en l'horoscope. Non, monsieur Guy, la nostalgie est encore plus celle de la lecture de notre enfance et de nos dessins animés. Ça n'existe pas. Moi, dans la grotte de mon enfance, les seuls dessins animés que j'ai vus, c'était les dessins façon Néandertal que faisaient mes 19 frères sur les murs, et accessoirement sur moi, et qu'ils animaient en vomissant leur alcool de marmotte. Et croyez-moi, dans ces souvenirs, il n'y a aucune nostalgie. Désolé, mon bon monsieur Guy, mais une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi !
C'est bien ça.
La bande originale avec Maggie.
On va pas s'arrêter sur chaque scène, parce que d'abord c'est difficile de les décrire et d'expliquer à quel point c'est drôle, j'insiste. Et Leïla a raison sur la réalisation. Ouais. Ce sont des effets spéciaux, mais on a le sentiment que tout n'est pas traité par ordinateur. Et d'ailleurs, maintenant on sait plus ce qui est réellement filmé, ce qui est par ordinateur. On imagine qu'une caméra qui suit la balle d'un revolver, ça fait partie de ces effets-là. Mais c'est extrêmement bien fait, surtout c'est au service de la vanne, du gag et de la situation. Et pas simplement pour faire bling bling à l'écran, ça fonctionne. Mais Pamela Anderson, l'idée d'aller chercher une espèce de Jessica de Roger Rabbit pour être la bombe connue, pourquoi elle?
Très bonne, c'était exactement l'image qu'on avait. On voulait la Jessica de Roger Rabbit. Ouais. C'est exactement ça. Et on s'est dit
vous avez commencé votre phrase par très bonne quand même. Je vous souviens, si jamais vous posez la question.
Bon. Très bonne remarque.
Très bonne remarque.
Un coup de massue là.
Et effectivement, on s'est posé
il
la
question. 500 kilos.
On s'est posé la question et on a pensé à Pamela Anderson parce qu'on savait qu'elle habitait en France.
Oui.
Depuis pas longtemps, elle habite à Marseille. Oui. Et on s'est dit ce serait incroyable d'avoir Pamela Anderson dans le film. Donc on connaissait quelqu'un qui était en contact avec elle. On
Adil a lancé
la. Non, pas Adil.
Bon, mec à bon.
Non, l'autre.
et elle a répondu oui pour notre plus grande surprise. On n'y croyait pas trop au début.
Oui, parce qu'il faut un poil, même beaucoup d'autodérision.
Elle a reculé sur la situation exactement. Qui est incroyable.
Et en fait, Pamela est extrêmement fun. Beaucoup d'autodérision parce que les scènes vont assez loin quand même.
Il y a la scène qui est dans la bande-annonce où le partenaire saute sur le lit.
Et ça l'éjecte.
C'est Julien Arruti, de mémoire, qui saute sur le lit, qui semble être une espèce de waterbed, j'en sais rien, mais enfin qui fait un effet trampoline, qui la propulse
au sol.
Elle se
retrouve éjectée par terre.
Ça, c'est drôle, mais sur le papier, elle n'a pas eu
mais au contraire.
Une distance par rapport à
ça. Non, au contraire, vraiment, elle a fait tout ce qui était écrit, parce que j'avais peur de ça. Au début, j'étais content qu'elle fasse le film, mais après je me suis dit ça reste une star américaine, est-ce qu'elle va
en
pas
plus,
vouloir
en plus elle joue la star américaine dans le film
et elle joue le rôle d'une star américaine et franchement pas du tout et elle a même une petite impro dans le film qu'on a gardé à un moment elle a dit wesh cousin qu'on a trouvé très drôle ça vient d'elle et non elle est très fun et voilà c'est un beau cadeau qu'elle nous a fait de venir dans le film et juste pour revenir effectivement sur la réalisation avant je vous remercie pour tout ça mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Nicky Larson, c'est comme un James Bond en comédie. Mm-hmm. Et donc on voulait que ce film ait ce côté un petit peu glamour, grand spectacle, et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum.
Ah non, mais si on aime Austin Powers, si on aime OSS 117, si on aime aussi les James Bond, et si on a aimé ou pas les alibi.com ou autre babysitting, on est totalement dans cette univers.
Ça doit mettre une pression d'avoir tout au début du film, avant que le générique même ne démarre. Columbia qui arrive avec cette vieille image, ça met une pression colossale.
Comme c'est Columbia Sony Columbia qui produit le film, au début du film, effectivement, on a la statue de la Liberté qui arrive avec marqué Columbia. Mm. Et moi, c'est mon moment préféré du film. C'est-à-dire que moi, le film peut s'arrêter après. Je kiffe. Non, mais c'est une fierté folle.
Il y a beaucoup de scènes coupées ou de bêtisiers potentiels. Bêtisiers, on imagine, oui, parce qu'il y en a déjà qui ont circulé sur Internet, mais.
Scènes coupées. Coupé,
en bonus de DVD déjà vous...
Scène coupée, quasiment toutes les scènes de Julien et Tarek, parce que je les aime pas trop. Et à part ça, non, c'est vrai qu'on a tourné énormément. Ouais, c'est très riche en bêtisiers. Je pense qu'il y aura des bons bonus sur DVD.
On a le temps d'y arriver.
Ouais. La version papier, ce qui reste finalement au montage, est-ce que c'est toujours le même procédé sur tous les films? Vous arrivez à avoir la même chose au papier et au montage ou il y a beaucoup de coupes?
Non, je suis très content. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. En fait, parce que...
Ça faisait combien de temps ils
étaient ça faisait au moins 2h20 le premier montage. Et vu que je teste beaucoup les films avant de les sortir, on fait beaucoup de projetés, je le montre beaucoup aux copains, aux gens, aux machins. Ben voilà, ça se resserre, et là, le film fait moins d'1h30, mais.
À propos de films d'animation, vous prêtez votre voix au personnage de Max dans un autre film qui s'appelle Comme des bêtes 2, donc qui sortira au mois de juillet, on a le temps de le voir. Et vous, Élodie Fontan, vous venez de tourner Piégé, une série, c'est ça, sur M6?
Ouais. Ouais, c'est l'adaptation d'une série espagnole faite par le créateur de La Casa de Papel.
Classe.
Donc ouais, on a fini le tournage au mois de janvier.
Et Clem continue sur TF1?
Ouais, ça continue. Je sais pas quand ça va être diffusé. Mais effectivement, oui, il y a une saison 9.
TF1 nous a dit que ça serait diffusé prochainement.
Ah bah voilà, tu vois, c'est sûrement prochainement. Voilà.
Il faut absolument pas le divulguer, le déflorer. Mais pour l'instant, en tout cas, allez voir Nicky Larson. C'est aujourd'hui au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien évidemment, désolé déjà pour Philippe Lachaud qui ce matin a été décrit comme un menteur, un trouillard, un mec aux cheveux douteux, un foutu de casser des œufs proprement. Un vrai profil de minable. Oui, mais quel corps. Vous me désolé pour Élodie Fontan qui ce matin a avoué passer sa vie avec un menteur, un trouillard, un mec aux cheveux douteux et un foutu de casser des œufs, un vrai profil de minable, oui. Mais quel corps, vous me plaisez bien, Elodie. Désolé pour Pamela Anderson, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Jarry et tous les guests à forte poitrine de Nicky Larson qui n'ont pas signé d'autographe sur le tournage du film. Ah, vous savez, Nagui souffre aussi quand il fait l'émission à mes côtés, il le vit bien. Il souffre, c'est minable, mais... Mais quel corps! Vous me plaisez bien, vous aussi, Nick. Très amoureux, ce
mercredi. T'as un problème. Merci beaucoup, Élodie Fontan, Philippe Lachaud.
Merci.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, Nicky Larson au cinéma. Demain, nous recevons Vincent Lacoste et Félix Moati. Passez une bonne journée avec le carnet de campagne de Philippe.
Merci, Nagui. Merci, la bande. À demain.